Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à l'affaire Sacco Vanzetti et à l'anarchisme italo-états-unien. Et donc c'était Here's to You de John Baez que nous venons d'écouter. Et donc on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission. Donc la première était consacrée à l'histoire de l'immigration italienne aux États-Unis. Et à l'histoire aussi de l'anarchisme italo-états-unien des années 1880 à la fin des années 1910 au début des années 1920. Donc on a vu cette riche histoire faite de grèves, de massacres et de répression. Et maintenant on va passer donc à l'affaire Sacco Vanzetti dont nous célébrons le triste 90e anniversaire de la conclusion de cette affaire qui s'est conclue par l'exécution le 23 août à 0h précisément de Sacco et de Vanzetti sur la chaise électrique. Pour parler de cette affaire, nous sommes avec Ronald Craig qui a écrit notamment sur cette affaire Sacco et Vanzetti aux éditions La Découverte en 1984. Il est professeur de civilisation américaine à l'université de Montpellier et auteur de nombreux ouvrages sur l'anarchisme aux États-Unis. Alors, maintenant, on a déjà dans la première partie de l'émission déjà un peu parlé de cette affaire, puisqu'on a parlé des deux événements qui vont mener à toute cette affaire Sacco et Vanzetti. Et donc, on en était resté précisément au moment où ils sont arrêtés et ils vont rapidement se retrouver dans une machination judiciaire qui les dépasse complètement et qui va plus ou moins les broyer. Donc est-ce que tu peux raconter assez rapidement cette machination judiciaire qui va conduire 7 ans plus tard, après 7 ans d'emprisonnement, de procès, de rebondissements, à leur exécution?
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque Sacco et Vanzetti ont été arrêtés, ils pensaient que c'était pour leur expulsion. Or, ce n'était pas du tout le cas. Le juge avait bien l'intention de pouvoir condamner pour leurs idées anarchistes. Et donc il a fait un certain nombre d'opérations qui n'étaient pas illégales, mais qui n'étaient pas coutumières dans le Massachusetts. Parce que chaque État est autonome, n'est-ce pas, au point de vue judiciaire. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que toute l'affaire se limite malgré tout au Massachusetts et pas aux États-Unis dans le cadre du procès. Donc pour pouvoir les incriminer, alors qu'ils n'avaient absolument aucune preuve du tout pour les deux procès, qui se trouvaient en deux lieux différents, avec deux individus qui se connaissaient à peine, qui s'étaient rencontrés comme ça au Mexique, mais qui en fait, donc Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, ne se connaissaient guère, donc ils ont été arrêtés ensemble puisqu'ils avaient été pris avec quelques petites pièces à conviction. Pour pouvoir les incriminer et n'ayant pas de preuves, il a fait une chose qui n'était pas non plus illégale, mais qui n'était pas coutumière. Il a d'abord commencé à faire juger Vanzetti tout seul pour le premier procès, la première affaire, celle de Bridgewater, celle du fourgon qui contenait de l'argent et qui avait été le hold-up manqué. Alors Vanzetti est donc choisi pour cela et l'avocat qu'on prend est un avocat italien dont on saura plus tard quand même qu'il avait des accointances avec le procureur et avec le juge, et qu'il a évidemment très mal défendu. Les gens qu'il avait soi-disant repérés, alors que beaucoup d'entre eux ont ensuite dit que non, que c'était qu'ils se sont trompés, et ainsi de suite. Et puis lui, il y a eu quand même un certain nombre de témoins pour lui dire que il n'était pas là sur le moment. Je veux dire, il avait un alibi comme vendeur de... C'était un peu la veille de Noël. Donc c'est un jour où évidemment tous les gens vont acheter du poisson pour avoir des repas de fête. Donc il y avait quand même un certain nombre de témoins. Mais du fait qu'ils étaient italiens, évidemment, on les considérait comme des complices non fiables, quoi.
Et puis on a manipulé aussi des témoignages, puisqu'il y a pas mal de témoignages qui au début disent, de témoins directs qui disent « c'est pas Vanzetti » et qui... subitement au procès ont changé d'avis. Quoi.
Voilà. Alors après, c'est trouvé. Alors immédiatement, de toute façon, il y a un anarchiste qui s'est mobilisé, Aldino Felicani, qui était un homme encore assez jeune, qui venait d'arriver aux États-Unis depuis pas très longtemps, et qui tenait un journal, qui travaillait dans un journal commercial italien, un quotidien italien, où il avait acquis quand même une très haute réputation. Et il a fait évidemment avec des gens qui étaient du même courant anarchiste que Sacco e Vanzetti, c'est-à-dire des gens qu'on appelle des gallianistes. Ce n'est pas un terme tout à fait correct dans la mesure où il n'y a pas... Ce n'étaient pas des groupes, ils étaient des individus isolés, ce sont des individualistes anarchistes qui sont contre l'organisation, et qui font d'ailleurs leurs actions, souvent, sans que personne ne le sache, ni leur famille, ni leurs voisins, ni leurs camarades anarchistes. Donc, il va prendre des Italiens qui sont... il y a quelques ouvriers, il y a un homme d'affaires, il y a aussi un professeur. Mais ce sont des gens qui ont des idées assez rigides, n'est-ce pas ? Ils croient à la révolution, ils croient donc à l'insurrection, ils croient à l'action directe. Et pour eux, il ne fait aucun doute que Sacco et Vanzetti sont arrêtés parce pour leurs idées et non pas du tout pour le crime. D'ailleurs, le juge qui a jugé Vanzetti va demander, ce qui est totalement inhabituel, va demander à juger les deux maintenant dans le même procès, alors que normalement, ça ne se fait pas. Ça ne se faisait pas. Et il va chercher, évidemment, à trouver des preuves, parce qu'il n'en a aucune. Il va essayer de recruter un indique et lui proposer d'aller louer d'aller vivre chez Rosina Sacco, comme elle n'a plus son mari, qu'elle a un enfant et qu'elle est sur le point d'accoucher un deuxième, elle a besoin d'argent certainement. Donc elle va pouvoir prendre cet indicateur de Tsukibanière qui pourra entrer dans l'intimité de Sacco et savoir un peu ce qui se passe. Malheureusement pour eux, l'avocat de la défense, un nouvel avocat qui a été choisi, s'aperçoit de l'affaire évidemment et donc on est obligé de l'affaire ne se fait pas. Mais on va placer un autre indicateur dans la prison, là où se trouve Sacco, parce qu'ils sont dans des prisons différentes, Sacco et Vanzetti. On va mettre un autre indicateur dans la prison de Sacco pour essayer de le faire parler. Et là aussi, ça ne va pas marcher. D'autant plus que, bon, Sacco dit qu'il est innocent, comme le dit aussi Vanzetti. Donc, l'avocat, donc le comité de défense, va être... chercher à mener une campagne. Bon, le problème est que ce sont des anarchistes qui veulent défendre des idées anarchistes, mais ils ne connaissent pas l'anglais, enfin ils le connaissent, mais ils le parlent mal, ce sont des immigrés italiens, sauf un qui est espagnol, et même le courant anarchiste est aussi divisé en courants qui sont, sinon hostiles, du moins méfiants les uns par rapport aux autres. Donc, il va quand même se constituer et trouver donc un avocat qui sera... Parce que ce qui se passe, alors à ce moment-là, va intervenir un personnage très important, Carlo Tresca. Carlo Tresca est un grand orateur italien qui est capable de parler à des foules énormes. Il faut rendre compte quand même qu'à l'époque, ces gens qui parlaient en plein air, devant quelquefois des milliers de personnes, devaient avoir une voix qui portait à tout le monde. Et en plus, où il y avait, par exemple, dans la foule, des ouvriers de langue étrangère qui ne comprenaient pas un mot de ce qu'on disait et qui attendaient patiemment que l'orateur de leur langue s'exprime. Donc, il y avait aussi toute une mimique à faire pour faire comprendre un peu de quoi il s'agissait. Quelques mots d'anglais peut-être aussi se glissaient dans le discours pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses. Enfin, c'était vraiment une action oratoire d'autant plus difficile. Elle se faisait sous les yeux de la police, qui était toujours là, qui avait vraisemblablement interdit la manifestation presque, et qui, au moindre discours qui apparaissait comme subversif, procédait immédiatement à l'arrestation des orateurs. Voilà les conditions dans lesquelles on défendait Sacco et Vanzetti. Alors Tresca, qui était ami avec Vanzetti, était absolument outré de la défense qu'il y avait eue auprès de l'avocat. Et il a dit, non, il faut faire venir quelqu'un d'autre de plus compétent. On va faire venir un avocat des anarcho-syndicalistes américains. Enfin, ils n'étaient pas anarcho-syndicalistes encore, ils sont devenus après. C'était les IWW, n'est-ce pas ? On les appelait les Wobbly.
Industrial Workers of the World.
Industrial Workers of the World. Et c'est un avocat qui avait déjà défendu des causes difficiles et qui va venir et qui va essayer de faire une action en profondeur. C'est-à-dire non pas seulement toucher les milieux anarchistes, mais essayer de toucher aussi les milieux américains. Et il va donc essayer d'avoir un discours qui ne va pas mettre en accent les idées anarchistes, mais présenter plutôt Sacco comme une victime ouvrière de la lutte des classes. Ce que sa compagne Elizabeth Gurley Flynn, qui est aussi une grande militante ouvrière, va trouver ridicule, parce qu'il ne se situe pas dans le cadre syndical, ils ne sont pas syndiqués, ils ne se situent pas dans le cadre de la lutte des classes de manière aussi nette. Et puis, de toute façon, l'accident, l'événement qu'il y a eu, le pas de hold-up, n'a rien à voir avec la lutte des classes. Donc, elle dit, non, ça ne va pas. Essaye de montrer simplement que c'est un ouvrier qui est attaqué par la classe dirigeante et écrasé à cause de ses... voilà. Mais Elizabeth Gurley Flynn est une femme qui va jouer un rôle crucial. Elle va mener une campagne dans les milieux juifs, dans les milieux anglophones également. Donc les milieux juifs à New York, qui vont donner, les milieux juifs vont être parmi les plus généreux pour financer la campagne. Les milieux anglophones, beaucoup plus réticents, parce que plus conservateurs et n'ont pas envie de se mêler de ces histoires-là, surtout sur la côte ouest. Donc ils vont aider simplement du bout des lèvres, mais pas tellement concrètement. C'est plutôt la côte est et le centre qui vont se mobiliser. Et il va y avoir... elle va être extrêmement active au point de faire quelquefois 5 ou 6 réunions, 5 ou 6 conférences dans la même journée, ce qui doit être épuisant quand on va faire 5 ou 6 conférences en plein air comme ça. Et c'est elle qui va amener le plus d'argent. Et puis il y a une autre dame de la haute société de Boston, et cette dame va visiter Vanzetti pour lui et il va prendre avec elle des cours d'anglais pour pouvoir parler l'anglais. Et elle est absolument impressionnée par Vanzetti, par son innocence. Et elle va publier un article dans un journal important de la gauche américaine qui va quand même déjà jeter les choses. Et d'autre part, elle va alerter toutes les bonnes dames des œuvres sur l'affaire Sacco et Vanzetti. Et ça va amener petit à petit... toute une bourgeoisie à prendre fait et cause aussi pour Sacco et Vanzetti.
Donc ça va être une coalition complètement hétéroclite, quoi, absolument avec des anarchistes italiens.
Voilà, et alors à ce moment-là, il va y avoir évidemment des problèmes, des drames avec les anarchistes italiens, parce qu'ils ne sont plus d'accord du tout avec le type de discours que les autres prennent pour le défendre, etc. Mais il y a Elizabeth Gurley Flynn, qui est extrêmement diplomate, parce que même Tresca en se méfie de lui. Elle est très diplomate, et c'est une femme qui a aussi milité avec les Industrial Workers of the World, était une organisatrice, etc. Et depuis, bon, elle a quitté ça pour d'autres raisons, et elle a créé un comité de défense du mouvement ouvrier, dans lequel elle va réunir des gens qui ne peuvent pas se supporter les uns les autres, mais qui sont d'accord quand même pour défendre devant la justice des gens qui sont condamnés uniquement pour leurs idées politiques et non pas pour des crimes réels. Donc nous allons avoir là des socialistes, des communistes et d'autres. Ça va réunir quand même un nombre important d'associations de tous les États-Unis. Et là-dessus, il va y avoir effectivement un mouvement important aussi qui va se créer de cette manière. Il y a aussi Moore qui continue évidemment son action et le procès qui a lieu se déroule d'ailleurs très vite et dans une atmosphère patriotique, c'est-à-dire pendant les grands anniversaires des victoires américaines à la guerre de 14-18 et dans d'autres guerres, dans des arrestations encore de prisonniers, etc. On va payer un certain nombre de gens pour servir comme témoins à l'accusation. Enfin, c'est un procès complètement truqué, manipulé, etc. Et en peu de temps, ils vont être tout simplement condamnés à mort.
D'ailleurs, notamment sur la base, tu le racontes dans l'ouvrage Sacco et Vanzetti, sur la base d'un traficage où on va essayer de faire correspondre la balle qui aurait été retrouvée sur quelqu'un qui est mort lors d'un des deux crimes avec le pistolet de Sacco de Vanzetti pour essayer de faire correspondre, mais tout ça, on voit bien que c'est de la bidouille, quoi.
Oui, 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 parce que bon, quand on demande au chef de la police, est-ce que vous pouvez certifier que ça a été, c'est ce que ça a été tiré par ce revolver? Elle a dit, ah non, ne me posez pas cette question, parce que je vais répondre, je ne peux pas certifier. Ce que je peux dire, c'est que ça peut être par un revolver de ce type.
Oui.
Et donc, on lui a posé la question, est-ce que la balle est sortie de ce revolver de ce type? Et ça, la défense ne le savait pas.
Oui, c'est donc, on voit les manipulations rhétoriques du jury, quoi.
Voilà un exemple des choses. D'ailleurs, il faut dire que le revolver, lorsqu'il a été saisi, n'a pas du tout été mis sous scellé. Il est resté chez le chef de la police pendant un temps certain, jusqu'au procès au moins. Et je ne sais même pas s'il n'a pas été aussi après. Il a été manipulé des tas de fois. Donc on ne peut pas jurer non plus que c'était vraiment le revolver que Sacco avait.
Mmh, bien sûr.
Alors Moore, l'avocat, fait plusieurs appels. Sacco en a marre, il a envie d'en finir. Il va récuser Moore parce qu'il dit, écoutez, de toute façon, on est condamné à mort, qu'on les exécute et qu'on en finisse. Et donc finalement, bon, Moore va être obligé de démissionner. Et c'est Elizabeth Curley Flynn avec Tresca qui vont réussir à avoir un nouvel avocat qui est un homme de droite, qui au début est un grand conservateur, qui va étudier le procès, qui va se rendre compte effectivement de toutes les injustices et qui va donc accepter de prendre la défense. Et ils vont également avoir faire venir un professeur de droit de Harvard, qui est d'une famille très aisée aussi, qui s'appelle Frankfurter, et ils vont réussir, par sa femme, à le convaincre d'écrire un texte qui va faire un énorme bruit dans le monde de la droite, dans le monde politique et dans les milieux conservateurs, pour démonter complètement le procès. Alors, ce qui se passe, la question qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que le procès, tout d'un coup, va prendre une allure internationale? Eh bien, le comité qui était là, eh bien, les Italiens qui sont là d'abord, vont évidemment écrire à tous les milieux italiens qui se trouvent aux États-Unis, mais aussi en Italie. Il y a également aux Italiens anarchistes qui ont été chassés d'Italie ou qui sont enfuis d'Italie et qui se trouvent en Suisse. Et donc la presse suisse aussi va en parler, la presse italienne également. Et il y a énormément d'émigration italienne également en Argentine. En Argentine, le mouvement social est dominé par les anarchistes. Et donc, ils vont aussi mener campagne là-dessus, dans toute l'Amérique latine également. Et d'autre part, il y a maintenant un certain nombre d'écrivains de langue anglaise qui ont été aussi sollicités par Elizabeth Gurley Flynn ou par Moore, qui vont interviewer Sacco et Vanzetti et qui vont écrire des livres. Et parmi eux, il y a Upton Sinclair, qui est un journaliste qui a attaqué les excès du capitalisme et qui est un socialiste, mais qui également écrit pour la presse communiste, mais qui écrit donc en même temps pour les anarchistes, et qui va sortir après d'ailleurs un livre qui s'appelle Boston, qui raconte exactement l'histoire, parce qu'il a travaillé sur tous les détails, il a interviewé les deux individus, etc. Et il y a le grand écrivain Dos Passos, et puis d'autres également, qui vont également manifester, de telle sorte qu'il y a des manifestations dans le monde entier, jusque dans les îles Sandwich. Le pape va intervenir clandestinement pour demander qu'on essaye de faire de même Mussolini. Staline va lui essayer d'utiliser ça pour le recrutement des communistes et va essayer de présenter ensuite l'affaire comme une affaire donc des ouvriers, on ne va pas dire qu'ils sont anarchistes, n'est-ce pas, mais des martyrs de la lutte des classes. Donc il va y avoir un phénomène géopolitique d'intervention du communiste, sur lequel évidemment je vais travailler un peu plus en détail dans le livre pour montrer un petit peu les tenants et les aboutissants. Et il y a donc, ça va jusque dans les îles Sandwich, et dans des endroits absolument inconnus, où tout le monde va manifester contre les États-Unis. Et le soir, alors il y a une demande de pardon au gouverneur du Massachusetts, qui fait venir un comité présidé par le président de Harvard, et finalement il refuse d'accorder le pardon parce qu'il se destine à être candidat pour la présidence et veut montrer que c'est un homme ferme pour avoir toutes les voix qu'il espère avoir. Et donc, finalement, le procès, l'exécution a été déjà retardée plusieurs fois. Et donc, la nuit où ils doivent être exécutés, il y a des foules immenses dans le monde entier qui se réunissent. Et à New York, il y a des milliers de gens, n'est-ce pas, qui attendent jusqu'à minuit pour, en espérant que quelque chose, que l'impossible, va se faire. Et ils sont en particulier là, donc sur la fameuse place où tout le monde se retrouve, Union Square, c'est la grande place ouvrière de l'époque. Et ils regardent les annonces qu'il y a, et quand ils apprennent qu'ils ont été exécutés, ce sont des hurlements, des gens qui s'arrachent littéralement les cheveux dans le désespoir, qui se déchirent les vêtements. J'ai des témoignages de gens qui ont vécu cela et qui ont connu cela et qui ont été témoins de cela. Des événements énormes aussi dans le reste du monde. Des attentats qui vont continuer quand même. Et on ne saura jamais, évidemment, de qui. Il faut d'ailleurs dire qu'énormément de ces attentats ont été attribués aux anarchistes, mais qu'on n'en a jamais trouvé les auteurs. Donc c'est très facile d'accuser les gens. Et alors, on peut conclure en se demandant comment se fait-il que quelques pauvres Italiens démunis d'argent, ne parlant pas l'anglais, aient réussi à organiser une telle campagne internationale. Je crois que ça nous ouvre des questions importantes pour les actions mondiales que nous faisons aujourd'hui, et qu'il faut beaucoup étudier ce cas pour savoir quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les problèmes qu'on rencontre. Car il faut reconnaître que les anarchistes ont échoué sur deux points essentiels. Sur le premier point, ils n'ont pas réussi à sauver la vie de Sacco et Vanzetti. Et sur le deuxième point, ils voulaient en même temps se servir de l'affaire pour faire connaître les idées anarchistes. Ça n'a pas été le cas. On a parlé de lutte des classes, on a parlé de lutte ouvrière, on n'a pas parlé des idées anarchistes. L'anarchisme, les idées anarchistes sont des idées qu'on essaye d'effacer de la pensée publique, qu'il est interdit de penser, qu'il s'agit non pas simplement d'écraser les gens, mais aussi les idées et les pensées, parce qu'elles remettent en cause les piliers même de la société. Et ça, c'est évidemment un problème. Alors, depuis cette histoire, ce procès qui évidemment n'a pas été brillant, la droite américaine a cherché à vouloir trouver des solutions. Elle a commencé par essayer de publier un certain nombre de livres pour dire que le procès était juste et parfaitement légal. Ça n'a convaincu que ceux qui voulaient être convaincus. Puis il y a eu une deuxième série avec des tests qui ont été faits avec le revolver de Sacco. Et ces tests, soi-disant, prouveraient la culpabilité de Sacco.
Et l'innocence de Vanzetti.
Et l'innocence de Vanzetti, sur lequel on passe, évidemment, on ne dit rien. On dit, mais tant pis pour lui. Et d'autre part, on ne peut pas démontrer que le revolver était vraiment celui de Sacco.
Parce que justement, ils ramassaient des revolvers à des camarades à eux.
Voilà, exactement. Donc ce n'est pas impensable et qu'il n'ait pas voulu dire à qui c'était, bien entendu. Donc, et maintenant, comme tout ça aussi n'a pas convaincu encore beaucoup de monde, on fait maintenant un troisième procès, c'est-à-dire de dire que la grande campagne pour Sacco e Vanzetti, c'était la main de Moscou, et que ça a été mené totalement par Staline. Et là aussi, je crois que c'est une illusion, et c'est une manipulation en fait, une simplification. Et c'est aussi quelque chose que je ne vais pas entrer en détail ici comme ça, mais enfin, quand on regarda dans l'ouvrage, comment les choses sont beaucoup plus complexes que cela, y compris en France, où le Parti communiste français, jusqu'en 1923-24, était totalement indépendant de Moscou, et où énormément d'anarchistes avaient rejoint ce groupe-là, et vont le quitter ensuite, lorsqu'il va se rallier de manière inconditionnelle au destin que lui veut lui imprimer Staline. Mais le Parti communiste n'est pas important partout en France. Il peut l'être à Paris, il ne l'est pas à Lyon, par exemple, et dans d'autres villes. Donc les choses sont beaucoup, beaucoup plus complexes que cela. Et une des plus grandes manifestations qu'il y a eu en France, pour l'affaire Sacco-Vanzetti, c'est même une des plus grandes manifestations de l'histoire française, puisqu'elle a eu lieu un peu avant leur exécution, et il y avait à la fois la Ligue des droits de l'homme, les socialistes, les communistes, les anarchistes, les catholiques de gauche, et beaucoup de gens simplement émus, ou des défenseurs qui étaient contre la peine de mort, des défenseurs des droits de l'homme, et des gens tout simplement indignés de ce qu'on condamne à mort des innocents. Donc, en réalité, c'est vraiment un mouvement populaire, au sens large du terme, puisqu'il comprenait des gens dans les différentes classes sociales. Il y a des gens auxquels on n'attribue pas d'opinion politique et qui pourtant protestaient. Ce fut le cas, par exemple, de Lévi-Strauss et de quelques autres. Donc, nous avons là un grand exemple d'union internationale qui s'est faite et qui était quand même crucial. Alors pour terminer, il faut savoir quand même qu'à l'époque, Sacco et Vanzetti avaient déclaré qu'ils n'étaient pas eux, et qu'il y avait d'autres qui avaient dit que c'était eux, enfin d'autres personnes qui ont été arrêtées, qui avaient dit Maderos, qui avaient dit que c'était lui qui avait fait l'affaire avec d'autres, mais n'avait pas voulu donner le nom de ses comparses. On n'a pas voulu l'écouter, on n'a pas voulu en tenir compte dans le procès. Mais il y a quelques jours, il y a un grand-père qui vient de révéler, alors c'est évidemment à vérifier, qu'en fait, toute cette affaire, enfin toute la campagne, enfin tout l'attentat qui avait eu lieu dans lequel les deux hommes avaient été exécutés, avait été fait par des communistes russes.
Voilà, oh là, alors là.
Voilà, merci.
Bon, ben, on va finir là-dessus, sur ce petit brin de suspense. On saura plus.
Alors, il faudra vérifier, évidemment, n'est-ce pas? Mais on a voilà un témoignage intéressant.
Voilà, donc mystérieuse affaire Sacco et Vanzetti.
Avec des rebondissements qui sont tels, et qui, d'ailleurs, aujourd'hui encore, tourmentent tellement la conscience américaine, qu'il ne se passe pas une année sans qu'il y ait un opéra, une pièce de théâtre, un livre, un ouvrage, une chanson, comme celle que vous avez entendue tout à l'heure sur Sacco et Vanzetti. Et je dois dire que quand on m'a demandé d'écrire ce livre, je suis allé voir mon beau-père qui habitait à l'époque dans l'Aveyron, dans un village complètement perdu, et je lui ai demandé, est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Sacco et Vanzetti? Il m'a dit oui, et j'en ai entendu parler, parce qu'il y avait un chanteur ambulant qui est venu nous chanter la chanson de Sacco et Vanzetti. Du coup, je suis monté chez mon voisin, qui lui avait eu son enfance en Tunisie, et je lui ai posé la même question. Et il m'a dit oui, j'étais au jardin d'enfants, ou à l'école primaire, je ne sais plus, et on m'a dit, tu ne dois pas chanter cette chanson, sinon tu iras en prison. Et il m'a chanté le premier vers de cette chanson, grâce à laquelle j'ai pu récupérer la chanson totale, et qui commence par « Tout est fini », Sacco et Vanzetti, quelque chose comme ça. « Tout est fini, plus rien à dire », c'est sur un air de tango. Ce qui montre que même à l'époque où il n'y avait pas l'Internet, il y avait les chanteurs ambulants qui communiquaient les informations.
Ouais, c'est bien intéressant, effectivement. C'est ce qui est intéressant aussi dans cette affaire Sacco et Vanzetti, c'est cette immense campagne mondiale en leur faveur, hétéroclite, bigarrée, avec plein de gens qui se détestent sinon. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui... Alors, il y a d'autres exemples dans l'histoire. Il y a aussi l'indignation mondiale autour de l'exécution de Francisco Ferrer en 1909-1910.
C'était avant, oui.
C'était avant. Mais c'est vrai que c'est une campagne assez assez formidable. Et ben en tout cas, merci donc de nous avoir parlé de l'affaire Sacco et Vanzetti et de l'anarchisme italo-états-unien. Donc on rappelle qu'on trouvera plus d'informations sur cette affaire dans ton ouvrage Sacco et Vanzetti, paru aux éditions La Découverte en 1984. Et il y aura une version il y a un nouveau livre qui va sortir aux ateliers de création libertaire dans quelques mois sur la campagne mondiale en faveur de Sacco et Vanzetti qui raconte un peu plus longuement ce dont on a parlé dans la deuxième partie. Voilà, merci Ronald.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.